et va demander à Dieu de lui parler. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'opportunité, pour ce privilège que tu nous fais d'être devant toi et t'entendre nous parler. Sois l'enseignant, soit celui qui nous parle, soit celui qui nous fortifie par sa parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter. Que nos cœurs soient de bonnes terres fertiles, qui reçoivent cette parole, cette terre qui produit du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, parle-nous, car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Ah, le peuple me fait un peu frayeur. Hein? Gloire à Dieu.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen.
Maranatha.
Amen.
Maranatha.
Amen.
Venez vous asseoir. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes ici dans le lieu du repos, dans le lieu de la grâce, dans le lieu de la sécurité. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Non. J'ai dit que ici, vous êtes dans le lieu du repos. Il y a deux personnes qui ont compris ce que j'ai dit. J'ai dit ici, vous êtes dans le lieu du repos. Ici, vous êtes sur la montagne où Dieu se révèle.
Amen.
Donc, c'est un privilège pour vous. Vous portez un nom important, Sinaï ou bien Horeb. C'est là où Dieu s'est révélé. Donc, vous voyez Dieu. Dieu se révèle à vous. Dieu vous parle. Vous voyez sa gloire. C'est un privilège pour vous. Amen. Ce matin, il nous est demandé de nous entretenir sur le thème suivant, se fortifier dans la bonne résolution. Dis avec moi, se fortifier dans la bonne résolution.
Se fortifier dans la bonne résolution.
Il y a trois personnes qui ont parlé. Se fortifier dans la bonne résolution.
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 J'ai l'impression qu'il y a trois personnes. Est-ce que vous êtes là? Non, moi je ne vous vois pas. Hein? Est-ce que Sinaï est là? Moi, on m'a parlé de vous. On dit qu'ici, là, c'est une communauté comme ça. Moi-même, je vais déménager pour venir ici. Ce qu'on m'a dit, là, c'est vraiment c'est faux. Ah, mais il faut que je voie. Hein? Il faut que je voie. Il faut que je voie. Amen.
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 Se fortifier dans la bonne résolution. Et le verset de méditation, c'est le verset 18c. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie, chapitre 2, le verset 18c. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le personnage clé, le personnage principal de ce livre s'appelle Néhémie. Néhémie signifie Dieu a consolé ou Dieu console. Ce matin, ce message s'adresse à ceux que Dieu a consolés, ou bien à ceux qui s'attendent à la consolation de Dieu. Est-ce qu'ici, il y a des gens que Dieu a consolés? Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent la consolation de Dieu? Parce qu'ils ont vu que la consolation se trouve seulement auprès du Seigneur. Et ce test-là, ce message s'adresse à ces personnes. Néhémie, qui était-il? Néhémie était un juif qui avait été amené prisonnier dans l'Empire Perse. Et donc, il travaillait auprès de l'empereur Artaxerxès. Néhémie était un échanson. C'est-à-dire, son travail consistait à s'assurer que tout ce qui rentre dans le ventre du roi n'était pas empoisonné. C'est un travail délicat. C'est un travail simple, non? C'est simple, non? Ne répondez pas. Moi, je suis. Papa, donc. Le peuple a encore eu. Ou bien, c'est pas le lancement de la boisson. C'était un travail simple, apparemment, mais très délicat. Tu dois goûter le vin. Ah, c'est ça, c'est compliqué. Manger, goûter, poulet que le roi va manger, toi tu goûtes d'abord. Et là, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est délicat. Parce que s'il y a poison dedans, lui, il meurt en même temps. Parce que poison d'avant, là, c'est pas poison de maintenant où quand t'es empoisonné, tu peux mourir un mois après. Tu peux mourir dans 2 mois. Tu peux mourir. C'est ça, non? Il y a poison de 1 jour. Maintenant, on prend plus ça. Parce que des poisons de ici et maintenant, là, on t'attrape. Vite, vite. Donc aujourd'hui, on prend poison d'une semaine, on mange ensemble. Oh, le repas est empoisonné. Et puis lui, il meurt une semaine, 2 semaines après. Tu dis, non, mais c'est le même repas qu'on a mangé. Moi, je ne suis pas mort, mais je ne sais pas pourquoi il est mort. Si c'était empoisonné, je serais mort. Oh, les gens là, ils ont l'antidote. Et donc, c'était le travail de Néhémie. Il goûtait ce que le roi mangeait. Mais un jour, Néhémie reçoit la visite de ses frères. Et Néhémie se soucie de l'état de Jérusalem. Écoutez bien, Néhémie se trouve où? Il se trouve où? Dans un autre pays. Où ça précisément? Il travaille où? J'ai dit ça tout de suite. Il travaillait où? Dans le palais. Il travaille dans un palais. Donc il était bien. N'est-ce pas? Il était bien. Il était à l'aise. Parce qu'il vivait dans un palais. Mais le cœur de Néhémie se trouvait toujours à Jérusalem. Il se préoccupait toujours de l'état de Jérusalem, de la vie que menaient les Juifs qui étaient restés dans le pays, ceux qui n'avaient pas été déportés. Comment ils se portent? Comment est l'état de la vie de Jérusalem? Comment sont les murailles? C'était ça sa préoccupation. Donc quand il rencontre ses frères, et il leur pose la question, mais comment est l'état de Jérusalem? Et ses frères lui disent que Jérusalem a été détruite. Que les murailles ont été détruites. Les murailles étaient ébréchées. Il y avait des brèches dans les murailles. Les portes consumées par le feu. En Israël et dans certains pays de l'Orient, les villes étaient fortifiées. On construisait des murailles pour protéger les villes. Je me souviens bien, dans la crise que nous avons connue, il y avait souvent une publicité qui passait à la télévision. Et puis, il y a un enfant qui dit, de plus en plus, Babo, il n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, non? Donc, Jérusalem était clôturée par une muraille et il y avait plusieurs portes. Donc, la ville était en sécurité. Mais ce rempart qui assurait la protection, la sécurité, a été détruite. Et donc, la ville n'est plus en sécurité. Il n'y a plus de clôture. On ne peut plus filtrer les entrées et les sorties. L'ennemi peut venir facilement et puis annexer, assiéger la ville. Parce qu'il n'y a plus de sécurité. Et cette nouvelle a attristé Néhémie. Quand vous lisez le chapitre 1, Néhémie se met à pleurer. Alors que ceux-mêmes qui lui ont donné la nouvelle n'ont pas pleuré.
Ce même qui vivait là-bas, là, il ne pleut pas sur le sort de Jérusalem, sur la situation de Jérusalem. Mais Néhémie, qui est à des milliers de kilomètres, était touché par les paroles. Il n'a pas vu, il a seulement entendu. Mais il y a des gens qui vivent là-bas, ils voient tous les jours, chaque matin que Dieu fait, ils voient l'état de Jérusalem, mais ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés comme Néhémie. Néhémie commence à pleurer. Au chapitre 1, il va prier, il va jeûner et autres. Nous sommes au chapitre 2. Au chapitre 2, Néhémie se trouve à Jérusalem. Il vient d'arriver à Jérusalem il y a 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il va faire l'inspection de la ville. C'est vrai qu'on lui a parlé, mais lui-même, il veut voir. Et il y a des choses même qu'il a vues et qui ne lui ont pas été dites par ses frères. Et donc, pendant ces 3 jours d'inspection, Néhémie sort du tamant pour voir les dégâts de la muraille, pour voir les dégâts de Jérusalem. Et il va prendre note. 3 jours après, il va maintenant décider de parler au peuple. Il dit au peuple, mais vous ne voyez pas que Jérusalem est détruite. Vous ne voyez pas que les murailles sont consumées, sont ébréchées. Vous ne voyez pas que les portes ont été dévorées, ont été consumées par le feu. Et vous ne voyez pas que c'est une honte pour nous. Et ces paroles vont toucher le peuple. Et ils vont dire, levons-nous et bâtissons. La première chose que je veux dire, Néhémie n'était pas un prophète. Néhémie n'était pas un sacrificateur, ni fils de sacrificateur. Néhémie n'était pas un gouverneur. Néhémie était, on va dire, un simple laïc. Il était juste un échanson. Mais qui a laissé son cœur être touché par l'amour de Dieu. Néhémie s'est senti missionné par le Seigneur. Il s'est senti envoyé par le Seigneur. Il a senti que Dieu l'appelait à se lever, que Dieu l'appelait à faire quelque chose. Or, à Jérusalem, il y avait déjà un pouvoir structuré. Le texte parle de magistrats. Il y avait des magistrats, il y avait des gouverneurs, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs. Mais Néhémie n'était rien de tout ça. Et quand il arrive, il va leur parler simplement. Il leur parle de la vision que Dieu lui a donnée. Il leur parle du projet que Dieu a mis sur son cœur. Il leur parle du fardeau que Dieu a mis sur son cœur pour Jérusalem. Et ce que je veux déjà tirer, c'est que le peuple, dans tout son ensemble, a adhéré au projet, a adhéré à la vision que Néhémie avait déclinée. Néhémie a dit, vous ne voyez pas que nous devons nous lever et bâtir. Ils ont dit, oui, nous levons et nous bâtissons. Il dit, levons-nous et bâtissons. Donc, ce projet n'était plus le projet de Néhémie, mais le projet était devenu le projet du peuple. Dis Amen. Aussi longtemps que le projet est l'affaire du leader, aussi longtemps que le projet est l'affaire du pasteur, aussi longtemps que le projet est l'affaire du PL, est l'affaire d'une minorité, est l'affaire du conseil, et que le projet n'est pas l'affaire du peuple, il ne peut pas avoir réalisation de ce projet-là. Est-ce que ça se comprend? Je voudrais vous faire remarquer que, avant Néhémie, il y avait eu plusieurs tentatives de reconstruction des murailles de Jérusalem. Mais toutes ces tentatives se sont soldées par de cuisants échecs. Le verset 17 dit ceci. Pardon, au verset 16. Il dit, les magistrats ignoraient où j'étais allé
et ce que je faisais jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux magistrats, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Ni à aucun de ceux qui s'occupaient de ses affaires. Donc avant lui, il y avait eu des initiatives. Avant lui, il avait eu des velléités. Avant lui, il avait eu des projets. Mais tous ces projets-là sont morts, n'ont jamais vu le jour. C'est pourquoi le texte dit, il se fortifiait dans la bonne résolution ou dans cette bonne résolution. Parce qu'on peut prendre des résolutions et ne pas être résolu à faire quoi ? À accomplir ces résolutions. Ici, il faut être résolu dans ses résolutions. Et c'est pourquoi le texte dit que à tes résolutions répondra le succès. En réalité, souvent quand on dit être résolu, on n'est pas vraiment résolu. Quand le cœur n'est pas 100% engagé à faire quelque chose, quand nous ne sommes pas bien disposés à faire quelque chose, la chose échoue. Il y a un adage qui dit, celui qui veut, il peut. La volonté. À travers l'intervention de Néhémie, le peuple s'est senti appelé par Dieu. Le peuple s'est senti mis en mission par Dieu. Frère, pour que le projet ou les projets que vous voulez faire ici, dans cette communauté, puissant se concrétiser, il faut que ces projets deviennent les projets de l'Église. Souvent, certains disent, au nom de l'Église, la vision du bishop. La vision du bishop, il veut parler de la vision de l'Église. L'évangélisation par la parole, l'évangélisation par quoi encore ? Sinaï, hein? Par les actes, par la parole, par les œuvres. Donc, une évangélisation holistique, une évangélisation complète. Mais dès l'instant où le chef de l'Église décline cette vision et que la vision est adoptée par l'Église, est-ce qu'on peut dire la vision du bishop? Est-ce que c'est juste de dire la vision du bishop? Qu'est-ce qu'on devrait dire? La vision de l'Église, c'est-à-dire que ce n'est plus la vision du bishop, ni la vision de son cabinet, mais ça devient ma vision, ça devient ta vision, ça devient notre vision. Et quand nous voyons les choses comme telles, nous nous sentons impliqués. Mais quand nous voyons la chose comme la vision de X ou de Y, on ne se sent pas impliqué, ou bien pas impliqué comme les autres. Ce matin, cette vision, c'est ta vision. Faut dire c'est ma vision. Faut dire c'est la vision de l'Église. Alléluia. Alléluia. Écoutez, regardez. Est-ce que quelqu'un est venu dire à chaque membre du peuple qui était là, qui écoutait Néhémie, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève. C'est ce qui a été fait. Mais c'est comme un seul homme, ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Le temps est venu où nous devons épouser cette manière de faire. Où nous sommes comme l'Église primitive. La Bible dit qu'ils étaient une seule âme, c'est ça non? Pardon? Un seul cœur, c'est ça? Corps, cœur et puis âme. Tant que nous n'arrivons pas dans cette dimension, nous allons faire des progrès comme le 1-1 à Sikongo. Tu le vois, il est là, hein, matin, il est là. Si tu ne l'as pas dérangé, le soir tu as venu, il est là, il fait comme ça. L'esprit d'Assi Congo est brisé au nom de Jésus.
est venu où nous devons être une seule âme, un seul corps, un seul esprit. C'est que nous atteignons cette dimension que vous voyez, les projets vont rapidement se réaliser. Projet de construction à l'église. Ah, c'est pas à faire. Est-ce que s'entendre d'abord même sur le projet? On va s'entendre pour la couleur. Couleur de quoi? Des carreaux. On peut faire un an. Parce que moi, je veux que les carreaux soient blancs. Toi, tu dis non, les carreaux n'ont qu'à être or. L'autre dit non, ça n'a qu'à être rouge. L'autre dit non, ça n'a qu'à être bleu. Le pasteur dit, ça n'a qu'à être vert. Le père dit, lui, c'est rose, il veut. Et Écodime dit, eux là, c'est quoi? C'est orange. Et puis, on est là. On va discuter. On va faire réunion de 19h. On va finir à 25h le lendemain. Ce qu'il dit, c'est faux. Hein? Dans les conseils. Souvent, il y a des choses qui sont évidentes. Mais non, ce n'est pas évident pour tout le monde. Pour avancer, on va mettre des années. Et c'est ce qui fait que nos églises, là, on met du temps à finir. Vrai ou faux? On va mettre 50 ans. On va mettre 40 ans, on va mettre 30 ans. Là où on peut aller vite. Il y a un pasteur nigérian qui a construit son église en 12 mois. Vous savez de qui il veut parler, non? Hein? Voilà. 12 mois. Une église de 50 000 places. En un an. Sans prendre crédit. Ça, là, c'est nous, on ne peut pas faire aussi. Maintenant, on va construire une église de 200 places. On va mettre 50 ans. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Quand nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit dans nos projets, il y a des blocages comme ça. Il y a le moi qui va venir. Il y a des égos surdimensionnés qui vont se présenter. Et cela nous empêche de progresser. Cela nous empêche d'avancer. Mais le temps est venu où ces égos surdimensionnés doivent être brisés au nom de Jésus. Le temps est venu où chacun doit voir les intérêts de Dieu et non pas ses propres intérêts. N'a pas dit amen parce que tu n'es pas d'accord.
Amen.
Si ton frère ne dit pas amen, c'est qu'il n'est pas d'accord. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi faut-il se fortifier dans cette bonne résolution? Il dit, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Écoutez, quand vous suivez bien le test, quand il a fait l'état des lieux, quand il leur a dit qu'il faut construire, ils n'ont pas dit « Levons-nous et bâtissons ». Mais quand il a commencé à leur dire comment est-ce que Dieu était avec lui, avait commencé à agir avec lui depuis le palais royal, comment est-ce que Dieu avait disposé le cœur du roi, comment est-ce que le roi avait donné d'importants dons, comment est-ce que le roi avaient pris des dispositions pour l'accompagner. C'est là qu'ils ont dit, levons-nous, baptisons. Parce que ils ont vu la main de Dieu dans ce projet. Amen. Amen. Ils ont vu quoi? La main de Dieu dans ce projet. Nous devons nous fortifier pour bâtir. Nous devons nous lever pour bâtir. Parce que les projets que nous avons ne sont plus nos projets, mais ce sont les projets de Dieu. Ce sont des projets que Dieu lui-même, n'est-ce pas, mais dans nos cœurs. Et ce sont des projets où nous voyons le Seigneur lui-même travailler. Où nous voyons déjà Dieu à l'œuvre. Le peuple a vu que non seulement Néhémie bénéficiait de la faveur de Dieu, mais de la faveur de l'empereur, de la faveur du roi. C'est à ce moment qu'ils se sont dit, levons-nous et bâtissons. Parce qu'ils ont vu que Dieu était dans ce projet. Ils ont vu que Dieu était dans cette affaire. Frère, quand Dieu est dans un projet, il réussit toujours. Est-ce que tu crois, est-ce que nous croyons que Dieu est dans ce projet que Sinaï veut faire cette année?
Amen.
Projet de quoi? De construction de clôture. Pour vous, ce n'est pas une muraille, c'est une clôture, c'est un mur. Hein? Il y a différence entre muraille et puis mur, c'est pas ça? Regardez le terrain. C'est très grand. Votre terrain là, ça s'étend à perte de vue. C'est ça non? Comment non? Vous voyez, le peuple d'Anémie là, ils ont pris 52 jours. 52 jours pour rebâtir la muraille, pour restaurer la muraille, pour restaurer les portes en 52 jours. J'ai dit, il s'agissait de faire quoi? De reconstruire une muraille pour toute la ville de Jérusalem. Ce n'est pas pour un quartier, ce n'est pas pour une maison, c'est pour toute une ville, frère. Par exemple, on va construire une muraille pour protéger Abidjan. Et puis, ce n'est pas nos murs là. Hein? Ce n'est pas nos murs là. Muraille, l'épaisseur, c'est 6 mètres. 6 mètres d'épaisseur. Ouais, de ce mur là, on va compter 6 mètres. Ici, non? À peu près, hein? Vous voyez, ça c'est l'épaisseur. Ça là, tu vas envoyer à Digdodine dedans là, ça ne peut pas rentrer. Mur comme ça là, mur comme ça là. RPG, ça ne peut pas rentrer. Kalash ne peut pas rentrer. Ce n'est pas nos murs là. Tu fais comme ça, boum. Et j'étais dans une maison. J'étais le nom du quartier, j'étais dans une maison. Le mur là, quand tu mets ton doigt dedans là, le mur là, ça s'effrite. Tu t'as de faire tout comme ça. Ton doigt, hein? Ça c'est maison ça. Oh. Alléluia. Alléluia. En 52 jours seulement, ils ont rebâti, ils ont reconstruit toute la muraille. Mais nous, le terrain que nous avons pour le moment là, si nous sommes bien disposés, en combien de temps on peut faire la clôture? Est-ce que même une personne ne peut pas se lever puis faire la clôture? Matin, aujourd'hui, dimanche, non. Dimanche prochain, on vient, il y a un mur. Est-ce que en une semaine, on ne peut pas construire clôture? On peut construire, non? Ah, est-ce que demain, lundi là, samedi, on vient dimanche, on va dépasser même, on va aller en bas là-bas. Mais l'église a même parti où aujourd'hui là? Pourquoi? Parce que il y a eu la clôture, il y a eu portail, il y a eu peinture, tout est propre. Je crois que quelqu'un peut le faire au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu te sens concerné par ce message, en tant qu'individu ou en tant que famille, tu peux te rapprocher du comité. Moisson, c'est ça? Qui est le président ou la présidente? C'est qui? Ok, voilà. Tu peux aller voir la maman pour dire, moi et ma maison, nous bâtirons la clôture. Moi et ma maison, nous offrirons le portail. Moi et ma maison, nous ferons ceci, nous ferons cela. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Il faut se fortifier dans sa bonne résolution Parce que il y a des oppositions. Il y a des Tobija. Il y a des Sambala. Mais il n'y a pas que cela. Dans le peuple, il y avait des taupes. Un prophète qui s'appelle Shemaïja, prophète de l'Éternel. Tobija allait le voir. Il lui a donné l'argent, beaucoup d'argent. Il dit, bon, faut dire à Némi de venir dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il est en danger dehors. Qui vient à la maison de l'Éternel, il sera en sécurité. Les gens avaient pour intention de tuer Némi même dans la maison de l'Éternel. Et le prophète avait cautionné cela parce qu'on lui a donné l'argent. L'argent. L'argent, là, ça retournait son cœur. Donc, il y avait des oppositions externes. Mais il y avait des oppositions internes. Et donc, il fallait que le peuple se fortifie. Le peuple s'encourage. Se fortifier, c'est ça. C'est se donner du courage. C'est s'encourager pour être de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on peut prendre de bonnes résolutions et puis on peut ne pas faire quoi ? Réaliser ces résolutions. La bonne détermination que j'ai aujourd'hui doit continuer dans le temps jusqu'à ce que je finisse ce que j'ai à faire. Mais souvent quand on vient à l'église, on nous parle, on est touché jusqu'à... Et puis on prend des résolutions. Bon, oh, je vais donner 10 tonnes. Demain, je donne 10 tonnes. 10 tonnes de quoi? Hein? 10 tonnes de ciment pour cette clôture de l'église-là. 10 tonnes, je donne 10 tonnes de ciment. Ah, et tu es content, tu es résolu. Dès qu'on est sorti, tu es arrivé à la maison. Et puis bon... Pourquoi j'ai donné 10 tonnes moi seulement? Mais pourquoi moi je vais donner 10 tonnes même? Je ne suis pas le seul à l'église. Si j'ai donné un paquet de ciment, ça fait quoi? De toute façon, personne n'a entendu ce que j'ai dit. C'est moi ce que j'ai parlé. Donc, je vais donner un paquet. Après, même ça devient demi-paquet de ciment. Jusqu'à ce qu'on arrive au dimanche, le paquet a disparu. Frère! Quand la Bible nous demande de nous fortifier, c'est parce qu'il y a des épreuves, c'est parce qu'il y a des difficultés, c'est parce qu'il y a matière à nous décourager, à nous démobiliser, à nous démoraliser. Frère, les Sambalas là, ils ont tenté de démoraliser, de distraire le peuple. Mais parce qu'ils se sont fortifiés, ils se fortifiaient chaque jour dans cette bonne résolution, ils sont arrivés à bout de leur projet. Ils étaient même souvent obligés de travailler d'une main et puis d'avoir une épée de l'autre main. Mais c'est parce qu'ils ils se sont fortifiés dans cette bonne résolution. Sinon, si c'est des moments d'épreuve là, il y en a eu. Des moments de découragement, il y en a eu. Des difficultés de tous autres, il y en a eu. Mais le peuple était déterminés. Ils étaient déterminés. Ce peuple avait la foi en Dieu. Ils avaient la foi que ce Dieu qui a initié cette belle œuvre était fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu commence quelque chose, il achève toujours. Ce peuple a repris confiance en l'Éternel. Ils ont repris courage en l'Éternel. Frère, ce que nous voulons faire demande que chacun ait la foi. Parce que quand nous disons que nous voulons faire ceci, cela, c'est maintenant que les épreuves vont venir. Quand tu dis que tu vas faire ceci, tu vas faire une action pour le Seigneur, c'est maintenant que des problèmes vont venir. C'est maintenant que des maladies vont commencer à se réveiller dans le corps de tes parents. C'est maintenant que des situations bizarres vont commencer à se présenter. Pourquoi? Parce que tu t'as dit que tu vas te lever et tu vas bâtir. Tu as dit que tu vas te lever et tu vas faire ceci. Parce que tu as dit que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Mes frères, si nous ne nous fortifions pas dans cette bonne résolution, une chose est d'avoir une bonne résolution, mais une autre est de se fortifier chaque jour dans cette bonne résolution. Alléluia. Alléluia. La prière est un moyen puissant de fortification. Néhémie a prié. Et avec le peuple, ils ont prié, ils ont intercédé. Si nous mettons la prière de côté, c'est pas sûr que ce projet-là arrive jusqu'à son terme. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Voici nos âmes, la prière. Et puis l'amour. Si nous sommes nantis, si nous sommes dotés de ces âmes, tous les projets que nous voulons faire dans cette église vont se réaliser au nom de Jésus de Nazareth. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux comme certains peuples, mais vous avez Dieu avec vous. C'est ce qui est le plus important. Ne comptez pas, on ne compte pas sur le nombre. Mais on compte sur Dieu. On peut se regarder, mais on n'est pas nombreux. Hein. Mais chez nous-mêmes, il n'y a même pas de ministre. Mais chez nous-mêmes, il n'y a pas tes cadres. Mais chez nous-mêmes, il n'y a pas tant. Nous-mêmes, là, on est des trucs. Mais regardez, Dieu a mobilisé le roi. Si tu es déterminé, Dieu peut mobiliser un roi que tu connais. Tu n'es pas d'accord avec moi. Et toi-même là, si la chose te tient à cœur là, Dieu peut faire en sorte que quelqu'un qui est pour toi comme un roi, quelqu'un qui a une position élevée, Dieu peut en faire en sorte que de par ton engagement, cette personne là se retrouve dans ce projet. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons appris que quand des gens ont commencé à bâtir la maison de Dieu, ils ont reçu un financement extraordinaire. Il y a des dons anonymes qui sont venus. Des dons anonymes qui sont venus. J'ai le témoignage dans une église que quand ils se sont mis à bâtir, il y a quelqu'un qui n'est même pas de l'église, qui ne croit même pas en Jésus. Il croit en un autre Dieu, nos amis là. Hein? À chaque moment, à des périodes, quand les gens ont besoin d'argent pour pouvoir faire ceci, cela, quand l'argent est en train de finir, quand il vient à l'église, et on ouvre la porte, on voit de l'argent. Les gens se demandent ce qui les intéresse. Vous savez ce qui les intéresse? Hein? Mais qui a donné ça? On fait enquête. Est-ce que ça t'a donné? Père dit non. Toi, si ça t'a donné, il dit non. Mais aïe, qui a donné? Bon, ils utilisent. Ils travaillent jusqu'à. Quand il y a. Aïe, mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Jusqu'à un jour, ils ont dit. Ils vont faire enquête. Parce qu'ils ont vu à peu près la période où l'argent est déposé. Donc ils ont fait la garde jusqu'à un jour la nuit. Il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est approché de l'église. Il s'est abaissé, il a laissé l'enveloppe et puis ils sont sortis. Mais toi, tu n'es pas de notre église. Tu n'es même pas chrétien. Et puis tu fais des choses comme ça. Et c'est lui maintenant qui les évangélise. Il dit, mais vous là, vous ne connaissez pas votre Dieu. Hein? Là, vous venez à l'église, vous chantez, vous priez. Mais le Dieu que vous adorez même là, vous ne le connaissez pas. Mais votre Dieu là, il est trop puissant. C'est lui qui parle là. Il dit, votre Dieu là, il est trop puissant. Mais quand je fais ça, quelques instants après, quelques jours après, ce que votre Dieu fait pour moi là, vous ne pouvez pas comprendre.
Alléluia. Bon, quelqu'un qui n'est pas en Jésus. Mais à plus forte raison, nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, nous qui sommes baptisés, confirmés, quoi encore? Voilà, tout ça là. Nous qui vivons à l'église, matin, midi, soir, en Christ Jésus, alléluia, amen, gloire à Dieu, Maranatha. À plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas ces choses-là pour nous aussi? Le temps est venu, frère, où chacun doit se lever. Chacun doit se sentir concerné. Chacun doit se sentir interpellé par le Seigneur à travers les projets qui vous seront présentés tout à l'heure. Projet de clôture, projet de L+, combien? Projet de ceci, projet de cela. Que chacun se sente appelé par le Seigneur. Que chacun se sente missionnaire dans ce projet. Que chacun ouvre son cœur à Dieu. Que chacun fléchisse ses genoux. Mais que personne ne soit celui par qui Satan passe pour disperser, pour diviser, pour décourager. Le diable peut passer par certains d'entre nous pour nous distraire, pour nous décourager. Mais il nous faut reconnaître la voix de Dieu. Quand quelqu'un est venu et puis tu vois qu'il est en train de te décourager, tu dis arrête de moi Satan. Ce n'est pas de lui que tu parles. Mais derrière ce qu'il dit là, tu as discerné qui? Tu as discerné qui? Satan. Souvent, nous, on pense que quand Satan vient nous parler là, il va venir. Comment? Il vient là avec son petit caleçon rouge, son manteau noir, des cornes. Ça, non? Vous tous pensez que. Tout le monde pense que c'est comme ça Satan est. C'est pas ça? Vrai ou faux? Nous tous ici là, on pense que Satan est comme ça. Il vient, il est bizarre, il a sa flèche pointue. Et puis, voilà, et puis il va venir, il va dire, ah, c'est moi le diable. Je suis venu pour te tenter. Non, hein. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Satan est passé par qui? Simon. Pierre, pour que Jésus n'atteigne pas sa mission. Il a dit à Jésus, mais tu ne vas pas mourir. À Dieu ne plaise. Tu ne vas pas mourir. Ah! On est ensemble ici. On fait l'œuvre de Dieu. Les malades guérissent. Hein? Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. Tu veux quoi? Tu veux quoi encore? Les gens se donnent à toi. Il faut que tu restes encore. On va faire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Le temps est venu où, dans cette œuvre que nous voulons faire là, nous devons avoir du discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Je vous assure qu'il y aura des gens qui vont se laisser utiliser par le Seigneur pour pouvoir arrêter, pour pouvoir disperser les forces. Mais nous devons reconnaître leurs œuvres, les démasquer et puis dire « Arrière de nous, Satan !» Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là, tout en espérant que chacun a compris le message, que chacun se sent interpellé, chacun se sent concerné, et que chacun apportera sa pierre, à l'édifice, afin que ces projets-là ne soient plus projets, mais ces projets-là deviennent des actions concrètes que nous voyons, que nous touchons pour la gloire de Jésus. Je prie que ces projets vraiment se réalisent dans un temps record, parce que ici, il y aura un peuple déterminé. Ici, il y aura un peuple décidé. Ici, il y aura un peuple engagé. Un peuple qui est zélé, qui a du zèle pour le Seigneur. La Bible déclare, car le zèle de ta maison me dévore. Frère, il faut que le zèle de la maison de l'Éternel te dévore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.